la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Guillaume Perriou a sorti un livre qui s'attache à décrire, à tourner autour de l'œuvre de Luciano Visconti, Mort à Venise. Lequel Mort à Venise est tiré du livre du même titre presque, La Mort à Venise de Thomas Mann. Pour les besoins d'une rencontre publique qui va avoir lieu à l'initiative de la librairie Durance, mais au cinématographe de Nantes, le 10 janvier prochain, où sera projeté le film, puis rencontre avec Guillaume Perriou, eh bien, je me dois de lire non seulement le livre de Guillaume Perriou, mais surtout de m'attaquer à cette nouvelle célèbre, La Mort à Venise, que je n'avais jamais lue. D'ailleurs, Thomas Mann, en avais-je déjà lu? C'est une bonne question. Je suis donc en train de lire La Mort à Venise de Thomas Mann dans une traduction de Félix Berthaud et Charles Siegwald. La nouvelle originale date de 1922. Thomas Mann disait, semble-t-il, que c'était ce qu'il avait fait de mieux. Il était plutôt difficile, le garçon. La traduction date de 1947, révisée en 1971. Et voici le chapitre 4. Maintenant, tous les jours, le dieu au visage ardent conduisait nu son quadrige enflammé à travers les espaces du ciel, et sa chevelure d'or flottait au vent d'est, au même moment déchaînée. Une blancheur soyeuse et éblouissante s'étendait sur les lointains de la mer et la houle paresseuse. Le sable brûlait. Sous l'éther azuré aux vibrations d'argent, des voiles couleur de rouille étaient tendues devant les cabines, et, sur la tache d'ombre nettement découpée qu'elles projetaient, on passait les heures de la matinée. Mais non moins exquise était la soirée, quand les plantes du parc exhalaient leur parfum balsamique, que les constellations accomplissaient là-haut leur ronde et que le murmure de la mer plongée dans la nuit montait doucement vers les âmes pour leur faire ces mystérieuses confidences. Ces soirs portaient en eux la joyeuse promesse d'une nouvelle journée faite de soleil et de loisirs, ordonnée avec aisance et parée des innombrables possibilités qu'un hasard charmant réunit à portée de la main. L'hôte, qu'une mauvaise fortune si complaisante avait retenu là, était bien loin de voir dans le retour de ses bagages le motif d'un nouveau départ. Il avait dû pendant 2 jours subir quelques privations et se présenter au repas dans la grande salle à manger en costume de voyage. Ensuite, quand on déposa enfin dans sa chambre la lourde malle égarée, il déballa consciencieusement ses effets et il en remplit armoires et tiroirs, résolu à rester jusqu'à une époque provisoirement indéterminée, satisfait de pouvoir passer les heures à la plage en léger vêtement de soie et au dîner se montrer en tenue de soirée à la table qui lui était réservée. Le bien-être de cette existence réglée le tenait déjà sous son charme. Le bercement de cette vie douce et brillante l'avait rapidement subjugué. Quel incomparable séjour, en effet, que celui qui combine les charmes d'une vie balnéaire confortable sur une plage du Midi avec le voisinage direct et familier de la bizarre et merveilleuse cité. Aschenbach ne recherchait pas les plaisirs. S'agissait-il de faire la fête, de se livrer au repos, de se donner du bon temps? Il sentait bientôt, et cela lui était arrivé surtout quand il était plus jeune, une inquiétude et un dégoût qui le ramenaient aux plus nobles efforts, à la sainte et austère servitude du travail quotidien. Seul ce lieu l'ensorcelait, débandait sa volonté, le rendait heureux. Parfois, dans la matinée, sous la tente de sa cabine, parcourant du regard la mer azurée et rêvant, ou bien encore dans la nuit tiède, appuyé au coussin de la gondole qui, de la place Saint-Marc, où il venait de s'arrêter longuement, le reconduisait chez lui, au Lido, sous la clarté du ciel étoilé, alors que les lumières chatoyantes et les sons langoureux de la sérénade s'éteignaient derrière lui, il se souvenait de sa villa des montagnes, du théâtre de ses luttes durant l'été, où les nuages descendaient à travers son jardin, où, le soir, de formidables orages soufflaient la lumière dans la maison, et où les corbeaux qu'il nourrissait se balançaient dans les cimes des pins. Alors, il avait parfois l'impression d'être transporté dans une région élyséenne, aux confins de la terre, là où une vie de béatitude est réservée aux hommes, où il n'y a ni neige, ni frimas, ni tempête, ni torrent de pluie, mais où Okanos laisse toujours monter la douce fraîcheur de son souffle, et où les jours s'écoulent dans des loisirs délicieux, sans peine, sans lutte, entièrement voués au soleil et à son culte. Asenbar voyait beaucoup, presque constamment, le jeune Tadzio. L'étroitesse de l'espace, l'emploi du temps imposé à chacun, faisait que le bel adolescent se trouvait toute la journée, sauf de rares interruptions, près de lui. Il le voyait, il le rencontrait partout, au rez-de-chaussée de l'hôtel, sur le bateau qui, dans une brise rafraîchissante, conduisait de la plage à la ville et de la ville à la plage, sur la place splendide et souvent aussi, entre-temps, dans les rues et les venelles, quand la chance le favorisait. Mais c'était surtout la matinée sur la plage qui lui offrait, avec une régularité fort opportune, l'occasion prolongée de s'absorber dans une étude recueillie de la gracieuse apparition. C'était même cette discipline du bonheur, cette faveur de circonstances journellement et uniformément renouvelées, qui mettait le comble à son contentement et à son entrain, lui rendait sa résidence si chère et laissait les beaux jours se succéder en une série si complaisamment arrangée. Il se levait de grand matin comme il le faisait à l'occasion quand le besoin de travailler le talonnait, et il était des premiers sur la plage quand le soleil était encore clément et que la mer, éblouissante de blancheur, était plongée dans sa rêverie matinale. Il saluait avec affabilité le gardien du barrage et familièrement le vieillard à barbe blanche et aux pieds nus qui lui avait préparé sa place, tendu sa toile brune, traîné les meubles de la cabine sur la plateforme et s'installait. Alors, 3 ou 4 heures étaient siennes, durant lesquelles, tandis que le soleil montant au ciel prenait une puissance redoutable et que la teinte bleue de la mer se fonçait de plus en plus, il avait le bonheur de voir Tadzio. Il le voyait venir de la gauche, le long du rivage. Il le voyait surgir d'entre les cabines derrière lui, où s'apercevait parfois tout à coup, non sans un joyeux émoi, qu'il avait manqué son arrivée et que l'adolescent était déjà là, et que déjà, dans le costume de bain bleu et blanc qui était maintenant son unique vêtement de plage, il avait repris ses occupations coutumières au soleil et dans le sable, et cette vie d'aimable futilité, d'agitation oisive, qui était à la fois jeu et repos, plaisir de flâner, de patauger, de manier la pelle, de poursuivre et d'attraper, de nager, de s'allonger. Cependant, les dames assises sur la plateforme le guettaient et l'appelaient, faisant résonner de leur voix, de tête, son nom « Tadzio, Tadzio !» Et il accourait auprès d'elles, avec une mimique animée, pour leur raconter ses aventures, leur montrer ses trouvailles, son butin. Coquillages, hippocampes, méduses et crabes qui avancent par bonds de côté. Asenbar ne comprenait pas un mot de ce qu'il disait. Peut-être les choses les plus banales du monde, mais cela faisait une tendre et vague mélodie à son oreille. Ainsi, parce que l'enfant parlait une langue étrangère, sa parole revêtait la dignité de la musique. Un soleil glorieux répandait une somptueuse lumière sur lui. Et la sublime perspective de la mer formait toujours le fond du tableau et en faisait ressortir la beauté. C'est un petit extrait de La mort à Venise de Thomas Mann, un extrait du chapitre 4, dans les traductions de Félix Berthaud et Charles Sigwald. Et c'est une version du livre de poche que je tiens en main. Alors peut-être avez-vous vu le film de Luciano Visconti tiré de ce livre « La mort à Venise », baptisé « Mort à Venise » avec Dirk Bogarde dans le rôle principal. Rôle principal qui est donc Gustav Asenbar, écrivain mélancolique qui échoue, on pourrait le dire, sur les plages du Lido à Venise alors que ça n'est pas bon pour sa santé et qui se meurt d'amour devant ce jeune adolescent Tadzio qu'il contemple. À longueur de pages et à longueur de pellicule, donc. Tout cela sur la musique magnifique de Gustav Mahler Et ça n'est pas complètement innocent que Visconti ait choisi cette musique, puisque Gustave, le prénom du personnage principal, est directement un hommage à Gustav Mahler, décédé en 1911, époque à laquelle Thomas Mann situe sa nouvelle, La mort à Venise. Tout cela est donc très lié, et nous l'écoutons pour terminer cette chronique, je lire.
Oh!